Bonjour et bienvenue pour ce nouvel enregistrement du cours Institutions et politique culturelle de la France. Nous sommes le mercredi 1er avril. J'espère que vous allez bien, que vous réussissez quand même à profiter un petit peu de ce beau temps qui règne au moins sur Paris. Cette séance 9 donc, du cours Institutions et politique culturelle est consacrée aux professions artistiques et culturelles. Je vais traiter de trois thèmes qui feront donc trois parties. D'une part, je vais présenter des statistiques sur l'emploi artistique et culturel en France. Ce sera l'objet du premier enregistrement. Ensuite, il y aura un deuxième enregistrement qui portera plutôt sur le spectacle vivant, qui zoomera en réalité sur un secteur de la culture, qui est le spectacle vivant. Et dans cette deuxième partie, je parlerai de l'intermittence du spectacle. Et je ferai alors soit un troisième enregistrement, soit dans le même deuxième enregistrement, je mettrai également la troisième partie qui sera consacrée à la question de la professionnalisation. Et je parlerai en particulier des médiateurs culturels. Voilà, tout cela sera comme d'habitude complété avec des documents, avec une présentation PowerPoint, et donc je posterai à la fois sur l'ENT et sur mon blog, dont je vous rappelle l'adresse, hein, laurentmartinblog.wordpress.com. Voilà, alors, donc il y aura beaucoup de chiffres hein, aujourd'hui. Je m'en excuse par avance, je sais que vous n'êtes pas pour la plupart très à l'aise, et je ne le suis pas non plus d'ailleurs avec les chiffres et les statistiques, mais il en faut néanmoins pour aborder, traiter ce sujet de l'emploi artistique et culturel. Donc c'est une première partie, l'emploi artistique et culturel en France. Il y aura 6 points, si je m'abuse, si je ne me suis pas trompé, 6 points dans cette première partie. Premier point, la difficile quantification de l'emploi culturel, la difficulté de trouver finalement des données fiables et à jour qui donnent véritablement une photographie plus ou moins fidèle, exacte du paysage de l'emploi artistique et culturel en France, qui est un paysage en réalité très instable, très mouvant, et sur lequel les statistiques font défaut, en tout cas. Ne sont pas complètement satisfaisantes. Alors, d'abord, qu'est-ce que l'emploi culturel? La réponse n'est pas simple en raison de la complexité du domaine et de la variété de ses composantes. Ici, je renvoie notamment à l'ouvrage écrit par Pierre Moulinier dans la collection Que sais-je, si je ne m'abuse, Les politiques publiques de la culture en France, où il consacre donc une partie de ce livre à la question de l'emploi culturel. Et il souligne que la première difficulté dans la définition finalement de ce que c'est que de ce qu'est l'emploi culturel, première difficulté provient de l'absence de délimitation claire du champ de la culture qui est en perpétuelle mutation et donc chaque partie elle-même est complexe. La deuxième difficulté tient à ce que dans le domaine artistique, relativement peu de personnes ont un emploi stable, beaucoup vivent de travaux éphémères et précaires, connaissent le chômage, voire exercent plusieurs activités qui n'ont éventuellement aucun rapport avec la culture, et donc il est difficile de décrire très précisément ce domaine. Autre spécificité du secteur qui le rend difficilement quantifiable, c'est qu'il est très éclectique en termes de champs, en termes de spécialités. Le monde des emplois culturels est aussi varié que celui des institutions et des disciplines qui composent le secteur culturel. Il existe ainsi une grande diversité de mondes de l'art et de la culture, dont la constitution, les règles du jeu, les statuts, les métiers présentent de fortes particularités, y compris à l'intérieur d'un champ artistique donné. Flou dans ses marges, parce qu'il côtoie le secteur socio-culturel, celui du tourisme ou celui des loisirs, sujet à débat dans sa définition, parce qu'il intègre pour une part des métiers qui sont liés aux technologies de l'information et de la communication. Le secteur culturel est également étroit dans sa nomenclature, en tout cas en termes statistiques, puisque par exemple les directeurs d'affaires culturelles ou les agents de développement culturel ou les médiateurs culturels eux-mêmes n'apparaissent pas véritablement dans les statistiques de l'INSEE. Alors, il existe plusieurs façons d'aborder l'emploi culturel. D'une part, on peut décrire les professions définies comme culturelles, par exemple artiste plasticien, chanteur, régisseur, journaliste, écrivain, architecte, etc. Ou on peut détailler les postes de travail dans les secteurs dits culturels, que sont par exemple le patrimoine, l'édition de livres, le cinéma, etc. Des postes qui peuvent être de nature culturelle, mais qui peuvent être aussi de nature plutôt technique ou administrative. Par exemple, effectivement, on peut compter dans le secteur culturel les emplois, par exemple, de secrétaire ou de comptable qui ne sont pas directement culturels. En 2016, ce sont les derniers chiffres connus que l'on peut trouver sur le site du ministère de la Culture, on comptait 595 100 personnes, donc mettons 600 000 personnes qui exerçaient une profession culturelle au titre de l'emploi principal. Donc environ 600 000 personnes exerçaient une profession culturelle au titre de l'emploi principal, parmi elles 43% de femmes, soit une part plus faible que dans l'ensemble de la population active, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour avoir des chiffres plus détaillés, il faut recourir à des statistiques un peu plus anciennes qui datent de 2014, donc ça fait déjà maintenant 6 années. Mais le paysage n'a pas été bouleversé depuis, hein, donc les chiffres restent intéressants, utilisables, je dirais, à titre d'ordre de grandeur. En 2014, en France métropolitaine, on avait. Alors, 572 600 personnes qui exerçaient une profession culturelle au titre de l'emploi principal, donc c'était un petit peu moins qu'en 2016. Cela équivalait à 2,2% de l'emploi total. Et par ailleurs, 620 000 personnes travaillent dans un secteur culturel, soit environ 2,4% de l'ensemble des emplois. Parmi donc ces 572 600 personnes qui exerçaient une profession culturelle au titre de l'emploi principal en 2014, 320 000 exerçaient une profession culturelle dans un secteur culturel, par exemple en tant que photographe ou dans l'édition de journaux ou encore scénariste dans la production de films ou de programmes pour la télévision, et 250 000 à peu près exerçaient une profession culturelle dans un secteur non culturel. Par exemple, designer dans l'industrie manufacturière. Moins de la moitié des employés du secteur culturel exerçaient une profession non culturelle, par exemple en occupant un poste de secrétaire dans une maison d'édition. Près d'un tiers des professionnels de la culture relevaient des métiers du spectacle en 2014, cadre artistique, cadre de programmation, de production de spectacle, artiste, technicien du spectacle. À proportion quasi équivalente, environ 180 000 personnes exerçaient une profession dans les arts visuels, concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la décoration, artistes plasticiens, artisans et ouvriers d'art, photographes. Les métiers de l'écrit rassemblaient un peu plus de 100 000 personnes qui exerçaient un métier en tant que journaliste, cadre de l'édition, auteur, traducteur, ou encore l'un des métiers de l'archivage, de la conservation et de la documentation. Enfin, on comptait un peu moins de 50 000 enseignants, professeurs d'art, exerçant leur métier dans un établissement spécialisé, école des beaux-arts, conservatoire, école d'art plastique, école de musique, association culturelle et de loisirs, hors établissement, enseignement général, secondaire ou supérieur. Si maintenant on regarde, et c'est le deuxième point de cette première partie, comment se répartit l'emploi culturel en termes de type d'entreprise, ce qu'il faut d'abord observer, c'est l'éparpillement de ce domaine culturel entre de nombreuses structures, souvent de petite taille, hein, la plupart des entreprises culturelles, c'est moins de 10 personnes à temps plein. Alors, il faut distinguer le secteur marchand du secteur non marchand. En 2016, les entreprises marchandes de la culture regroupaient environ 100 41 000 unités, soit plus de 6%, plus de 6% de l'ensemble des entreprises de l'économie marchande française. Et ces entreprises marchandes de la culture employaient quelque chose comme 635 000 actifs. Les industries culturelles concentrent à elles seules plus de la moitié des emplois, en particulier le secteur audiovisuel, mais aussi le secteur du livre et de l'édition et la presse. Pour ce qui est du secteur non marchand, alors là aussi il faut distinguer les emplois d'État et les emplois des collectivités territoriales et les emplois des associations. Pour ce qui est des emplois d'État dans un premier temps, le ministère de la Culture est un employeur relativement modeste hein, en taille, en nombre d'agents, quand on le compare à des grands ministères comme celui de l'Éducation nationale. Le ministère de la Culture, c'est 30 000 personnes, dont un tiers au ministère proprement dit et dans les directions régionales des affaires culturelles, et deux tiers dans les établissements publics, administratifs ou industriels et commerciaux. 30 000 personnes, je disais, si on compare, si on rapporte ce chiffre à celui de l'ensemble de la fonction publique d'État, 700 000 actifs, on s'aperçoit que le secteur culturel est un secteur donc relativement mineur en termes de nombre d'actifs. Bon, il conviendrait d'ajouter à ce dénombrement les personnels des associations para-administratives, assez nombreuses dans le domaine du patrimoine, j'y reviendrai dans un instant. Auparavant, quelques mots sur l'emploi dans les collectivités territoriales. Il existe un cadre réglementaire et hiérarchique des emplois territoriaux qui inclut un certain nombre d'emplois accessibles par concours dans le domaine de la culture. Je mentionne par exemple les directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique, les professeurs territoriaux d'enseignement artistique, les conservateurs territoriaux du patrimoine dans les quatre spécialités, hein, archéologie, archives, inventaire et musée, les conservateurs territoriaux des bibliothèques. Donc tous ces métiers sont accessibles via des concours administratifs et forment donc une fonction publique territoriale dans le domaine culturel. On y trouve également, alors il y a beaucoup d'emplois au profil très spécialisé, mais qui sont tenus plutôt par des agents contractuels dans ce secteur des collectivités. Les services des collectivités territoriales comportent un nombre très élevé hein, de personnels non titulaires, principalement employés dans les écoles d'art et de musique, surtout fréquents dans les communes rurales, où on estime que 9 agents sur 10 sont des non-titulaires. Alors je le disais, il y a également le monde des associations. On trouve de nombreuses entreprises de forme associative qui se situent entre privé et public, entre travail et loisirs, entre bénévolat et professionnalisme. Notamment, je parlais tout à l'heure des associations para-administratives qui sont nombreuses dans le domaine du patrimoine. Un petit nombre de ces emplois parviennent à intégrer la fonction publique, mais la plupart gardent un statut précaire de contractuel, voire de bénévole. Bon, en ce qui concerne le monde des associations, c'est vrai que nous manquons de données précises hein, sur les emplois qui existent dans ces associations. C'est un monde hétérogène et les données statistiques qui le concernent sont vraiment sujettes à caution. Par ailleurs, nombre d'associations ne sont que partiellement culturelles. Si je prends par exemple les fédérations, les associations d'éducation populaire telles que la Ligue de l'enseignement ou la Fédération des maisons des jeunes et de la culture ou la Fédération des foyers ruraux, on trouve de nombreux emplois qui ne sont pas directement culturels. Et à l'inverse, on trouve des emplois culturels dans des associations liés au tourisme, au développement local, à la défense de l'environnement, à l'animation des loisirs, aux organisations éducatives et sociales. Donc il y a finalement une grande difficulté à préciser la part de l'emploi culturel dans le monde associatif. Troisième point, l'évolution des chiffres. L'emploi artistique et culturel a connu en France, comme dans bon nombre de pays européens, une forte expansion à partir du début des années 80, mais qui tend à se ralentir depuis le milieu des années 2010, voire à reculer dans certains domaines. Cet essor, donc, qui a accompagné toute la fin du XXe siècle et le début du XXIe, a témoigné à sa façon d'un changement de société, hein, où les activités de temps libre ont pris une place croissante dans la vie sociale contemporaine, des sociétés où le besoin d'expression, notamment artistique, s'est affirmé, et où on a assisté, j'y reviendrai dans ma troisième partie, à une professionnalisation d'un certain nombre d'activités qui auparavant étaient assurées plutôt par des bénévoles. Dans la décennie 90, le nombre d'actifs a augmenté de près de 20% dans les professions culturelles. Contre 4% pour l'ensemble des actifs, tous secteurs confondus. Donc il y a une progression beaucoup plus importante du nombre de professionnels dans le milieu culturel dans ces années 80, 90, début des années 2000, que dans le reste des secteurs d'activité. Toutes les professions culturelles ou presque ont été concernées par cet essor, en tout premier lieu celles liées au spectacle, dont les effectifs ont plus que doublé en 20 ans. Ce développement a été porté par l'augmentation du nombre de cadres artistiques, de programmation, de production des spectacles, mais aussi des techniciens des spectacles et de l'audiovisuel, en lien, et j'y reviendrai, avec la montée en puissance du régime de l'intermittence. Autre groupe de métiers concerné par cet essor, donc des 30 dernières années, les professions des arts graphiques, de la mode, de la décoration, qui ont vu leurs effectifs doubler, avec le développement de métiers liés aux activités économiques de design ou de création graphique. Après donc une forte hausse, hein, des années 80 au début des années 2000, le nombre de personnes exerçant à titre principal une fonction culturelle a stagné depuis le début des années 2010 et a eu tendance à reculer à partir de la mi à partir de 2014-2015. L'emploi approché par secteur culturel recule depuis les années 2010. Les emplois qui disparaissent dans les secteurs culturels en crise sont principalement des professions considérées alors plutôt comme non culturelles, les services de secrétariat, de comptabilité, etc. Le nombre de professionnels de la culture est resté relativement stable, mais l'emploi dans les secteurs culturels est plutôt en baisse. Dans le même temps, les professionnels de la culture ont investi de plus en plus des emplois hors de la sphère culturelle. Ils sont, selon les statistiques de 2014, 44% à travailler dans un domaine non culturel. Parmi eux, on peut citer par exemple le cas des artistes des spectacles qui travaillent dans le secteur des parcs d'attractions, ou des architectes qui travaillent dans le domaine de l'ingénierie et des études techniques. Autre tendance, la tendance à un haut niveau de formation, alors que les rémunérations sont inférieures à la moyenne des autres secteurs d'activité. Plus de 45% des personnes employées dans le secteur culturel possédaient un diplôme universitaire au début des années 2010. On y trouve également un grand nombre de situations précaires, une forte présence du travail non salarié. Plus de 37% des actifs en 2016 ont une activité non salariée, contre 12% pour l'ensemble de la population active, donc des professions libérales, des artisans, des auto-entrepreneurs, et une généralisation de la pluriactivité. Selon les chiffres du ministère de la Culture qui datent de 2017, un tiers des actifs dans la culture sont considérés comme indépendants. Donc le non-salariat est beaucoup plus répandu dans le secteur de la culture que dans l'ensemble de la population active. Alors pourquoi y a-t-il plus d'emploi à temps partiel, quand on interroge donc les salariés qui ont ce travail à temps partiel dans le secteur culturel, la première réponse qui vient, je pense à une enquête qui avait été faite au début des années 2010, la première réponse qui vient, c'est que tout simplement, ils n'ont pas ou elles n'ont pas trouvé d'emploi à temps plein. La deuxième raison qui est invoquée, distingue assez fortement les salariés des deux sexes, puisque pour les femmes, la raison invoquée, la raison principale qui est invoquée, c'est la nécessité de s'occuper des enfants. 30% des femmes répondent à cela, contre seulement 3% des hommes. Tandis que donc, pour les hommes, ce sont des contraintes qui sont liées à l'exercice d'une seconde activité professionnelle, à 26% pour seulement 11% des femmes. Alors, je vais détailler un petit peu justement. Cette question de l'emploi féminin, j'avais dit tout à l'heure que, et contrairement à une idée reçue, que la part des femmes dans le secteur culturel est plus faible que dans l'ensemble de la population active. Bon, depuis les années 60, la croissance du taux d'activité féminine est l'une des transformations majeures du monde du travail, qui a conduit à la quasi-parité des actifs dans les années 2010, hein, puisque on est en 2013, je n'ai pas de chiffre plus récent, mais il doit y en avoir, on était à 48% de femmes parmi les actifs. C'est un phénomène qui s'observe également parmi les professions culturelles, mais la part des femmes demeure inférieure à la moyenne nationale, puisque on compte 43% de femmes dans les professions culturelles. C'est un constat paradoxal, je le disais, au regard de la surreprésentation des femmes dans nombre d'activités et de pratiques culturelles. Ça s'explique par le fait que la croissance des effectifs, donc depuis les années 80 jusqu'au début des années 2010, n'a pas concerné les secteurs dans lesquels les femmes étaient présentes. Je pense notamment à tout ce qui est art graphique, profession technique des spectacles, qui étaient très masculines au départ et qui se sont peu à peu ouvertes, mais de manière encore limitée aux femmes, notamment donc dans les professions techniques des spectacles, elles représentent un quart à un tiers des effectifs, en dépit du doublement de la population de ces techniciens du spectacle. Bon, c'est lié à divers facteurs, le contenu très technique de certaines tâches, la pénibilité physique, l'irrégularité des horaires. Mais en réalité, les femmes se plient à ces contraintes dans d'autres professions, donc ça ne suffit pas évidemment à expliquer ce caractère relativement réduit du nombre de femmes dans ces professions. Les écarts de revenus entre femmes et hommes sont significatifs dans les secteurs culturels, mais restent inférieurs à ceux observés dans l'ensemble de la population active. Les femmes des professions culturelles, toutes professions confondues, perçoivent des revenus inférieurs en moyenne de 20% environ à ceux des hommes des mêmes professions. C'est un écart qui est très variable d'une profession à l'autre, mais qui donc reste inférieur en moyenne à celui observé dans l'ensemble de la population active, puisque dans l'ensemble de la population active, on estime que cet écart est d'environ 30% entre les actifs des deux sexes. Alors un cinquième point que je voudrais aborder dans cette première partie, finalement il y en aura cinq et pas six, c'est la question de la diversité ethno-culturelle parmi les professionnels de la culture. C'est un thème qui a surgi dans le débat public il y a finalement assez peu de temps. Alors qui se heurte au manque de données là aussi, mais peut-être plus encore que pour les questions précédentes, hein, les données manquent pour dépasser le stade de l'intuition, de l'observation personnelle. Mais les rares données qu'on peut récolter donnent à penser que plus on s'élève dans la hiérarchie des institutions culturelles, plus on s'élève dans les postes de responsabilité, moins les personnes issues de l'immigration récente ou des minorités visibles ou invisibles d'ailleurs sont présentes pour les personnes. La question qui est ici posée, c'est celle de la représentativité des institutions culturelles. qui se pose d'ailleurs à l'ensemble des institutions de ce pays et d'autres pays, hein, institutions médiatiques, politiques, universitaires. Or, si on compare avec la question de la parité homme-femme, on est frappé de voir que cette question, qui semble légitime lorsqu'elle concerne justement l'équilibre entre les hommes et les femmes, et qui se traduit par des mesures très concrètes en termes de parité dans les équipes notamment, cette question cesse d'être légitime apparemment dès lors qu'on aborde le thème de la différence ethnoculturelle. D'où le caractère à la fois choquant et nécessaire, me semble-t-il, d'un manifeste comme celui qu'avait publié au printemps 2015 un ensemble de personnes qui se désignaient elles-mêmes comme artistes et intellectuels descendants de colonisés et d'esclaves, ou encore artistes et intellectuels non blancs, on remarquera d'ailleurs que le terme immigré n'est pas utilisé, et qui réclamaient, pour le dire vite, une politique volontariste assurant la présence plus grande des minorités ethnoculturelles au sein des établissements culturels à tous les échelons de la hiérarchie. C'est un texte qui est dérangeant, mais utilement dérangeant, me semble-t-il, puisqu'il pose des questions importantes sur justement le déficit de représentativité de bon nombre d'institutions culturelles. Il remarquait notamment que sur 15 centres chorégraphiques nationaux, 4 étaient dirigés ou co-dirigés par ce qu'ils appelaient des non-blancs. Sur les 35 centres dramatiques nationaux, aucun directeur ou directrice n'était noir, arabe ou asiatique. Et il réclamait, hein, dans ce texte, dans cette tribune parue dans Le Monde, le 30 mars 2015 exactement, je les cite, hein, c'est nous que les institutions doivent envoyer sur le terrain, nous devons être nommés à la direction des structures situées sur les territoires où vivent les classes populaires, nous devons être artistes associés des scènes, théâtres, centres chorégraphiques nationaux, nous refusons de continuer à être le public impuissant d'événements censés nous célébrer, dans lesquels nous ne sommes pas conviés à nous exprimer. Et ils réclamaient des assises culturelles pour proposer un certain nombre de réformes. Alors, il y a eu d'autres événements, d'autres manifestations plus récentes. Je pense notamment aux cérémonies des Molières, qui avaient donné lieu à une manifestation organisée par le collectif Décoloniser les Arts, créé lui aussi en 2015 pour exiger une meilleure représentativité des minorités dans la culture. Ce collectif avait envoyé un questionnaire à 300 directeurs d'établissements culturels. Parmi les questions, on y trouvait celle-ci. Connaissez-vous des non-blancs ou non-blanches directeurs ou directrices d'institutions culturelles publiques? Avez-vous des collaborateurs non-blancs dans votre équipe permanente? Pourquoi n'y a-t-il que des blancs ou des blanches dans la plupart des spectacles français? Seules deux institutions avaient répondu. Alors, les initiatives existent, hein, notamment dans le champ de la formation, de l'enseignement supérieur spécialisé, pour promouvoir la diversité culturelle, non plus dans les paroles mais dans les actes. Je pense notamment aux actions soutenues par la Fondation Culture et Diversité. Mais là encore, ça soulève des questions importantes, difficiles. Les artistes débutants qui bénéficient de ces dispositifs sont-ils retenus en raison de leur qualité artistique ou de leur qualité de représentants de minorités jugées ou perçues comme défavorisées et que l'on veut du coup favoriser? Faut-il, pour le dire autrement, faut-il des quotas dans ces enseignements, dans ces formations supérieures ou dans les institutions culturelles, et si oui, selon quels critères? Alors, je voudrais ici citer une étude qui a été menée par une de vos camarades, une étudiante du département de médiation culturelle qui était en deuxième année de master l'année dernière, Bibata Roamba, R-O-A-M-B-A, qui a travaillé sur ces questions-là. Hein, c'était un projet qu'on avait conçu ensemble. Alors, je vais la citer. Alors, avant de parler de son terrain, c'est-à-dire essentiellement d'institutions culturelles qui se trouvent en Seine-Saint-Denis, elle relevait que il y avait donc un certain nombre d'initiatives qui avaient été prises pour assurer une meilleure place de la diversité ethnoculturelle dans les institutions culturelles, notamment une charte de la diversité, lancé en 2004, dont l'objectif était d'encourager les entreprises à refléter dans leurs effectifs les divers composants de la société française. 40 entreprises l'avaient signé, dont France Télévisions, Canal+, également, qui s'engageaient à œuvrer pour représenter la diversité de la population française, notamment donc, sa diversité ethnique ou culturelle. Hein, là aussi, les termes sont souvent compliqués et piégés. On remarquait d'ailleurs, enfin Bibata remarquait que parmi les entreprises signataires, il n'y avait pas, il n'y avait aucune structure publique du spectacle vivant. La problématique de la vérification du respect de cette charte par les entreprises reste entière aujourd'hui. Sur quels critères est fondée la quantification permettant de déterminer la représentation suffisante, peu ou pas suffisante, de la diversité dites ethniques, dites culturelles des populations dans les entreprises, puisque il est impossible légalement d'effectuer des statistiques incluant des appartenances ethniques. Quant au quota, elle relevait qu'il y avait une division profonde entre ceux qui plaident pour les quotas, en disant qu'il faut nécessairement une action volontariste pour permettre à cette diversité d'être enfin reconnue, et ceux qui rejettent totalement ces quotas au nom de l'égalité de traitement finalement entre les individus. Donc un pacte républicain, comme on l'invoque parfois, qui exclurait toute exception à l'égalité des citoyens devant la loi. Alors, il y a également un label diversité qui a été lancé en 2008, créé par l'État avec les partenaires sociaux et des experts, mis en œuvre par l'organisme international de certification AFNOR, qui l'attribue à partir d'un cahier des charges pour les structures culturelles qui réclament ce label. Ce label diversité vise à reconnaître l'engagement effectif, volontaire et durable d'un organisme pour prévenir les discriminations, promouvoir la diversité dans le cadre de la gestion de ses ressources humaines. Donc en termes de recrutement, d'intégration, de gestion des carrières, etc. C'est un label qui est accessible aux entreprises, associations, ministères, établissements publics et collectivités territoriales, qui s'intéresse donc à la diversité sous toutes ses formes, toutes ses expressions, avec 24 critères de discrimination définis par la loi, touchant à l'origine, au sexe, aux mœurs, à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, à l'âge. C'est un label qui a été obtenu par le ministère de la Culture pour le compte, entre autres, de différentes directions régionales des affaires culturelles et de structures, par exemple le Théâtre de la Colline. Mais vous aurez remarqué que la diversité ethnoculturelle n'est que l'un des critères, pris en compte par ce label. Alors, Bibata Rwamba a travaillé plus particulièrement sur des institutions culturelles du département de la Seine-Saint-Denis, notamment des structures de formation, par exemple Prépa Théâtre 93, qui est une classe préparatoire pour l'égalité des chances, installée à la Maison de la Culture de Bobigny. C'est une classe qui a ouvert ses portes en septembre 2019, à destination de jeunes entre 18 et 25 ans. Elle s'adresse soit aux élèves des trois conservatoires partenaires, le réseau des conservatoires de Seine-Saint-Denis, Aubervilliers, Bobigny et Pantin, soit à des jeunes qui remplissent les critères sociaux de l'égalité des chances. La prépa Théâtre 93 propose une préparation au concours d'entrée aux grandes écoles d'art dramatique françaises et francophones. Elle est constituée pour moitié d'élèves relevant du dispositif Égalité des chances et d'élèves issus des conservatoires partenaires, avec une entrée sur concours. Autre exemple de formation, la formation prépa technique Avenir, mise en place en 2014, par le Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle de Bagnolet, associé au Théâtre de la Colline. Cette prépa a pour objectif l'égalité des chances, là encore, dans l'accès aux métiers techniques du spectacle vivant, lumière, machinerie, lumière, son, etc. Pendant un an, six jeunes, sans diplôme ou alors titulaires simplement d'un CAP ou d'un BEP, si jeunes du département, suivent en alternance une formation et une expérience de terrain au Théâtre de la Colline et au sein de différentes compagnies de théâtre. Alors ça, c'est pour la formation. Bibata a par ailleurs mené une étude au sein de 5 établissements culturels de la Seine-Saint-Denis. Ces 5 établissements sont la MC 93, le Nouveau Théâtre de Montreuil, le Théâtre Gérard Philippe, le Théâtre des Bergeries et Noisy-le-Sec et Banlieue Bleue, la Dynamo. Elle a utilisé la technique d'enquête par entretien avec des questionnaires à questions ouvertes qui ont été envoyés à des responsables de ces différentes structures. Elle a par ailleurs fait des entretiens avec un responsable du développement des publics, un directeur de théâtre, un responsable d'action musicale, une directrice administrative et financière, un directeur du développement culturel, des artistes et puis des habitants également. Appartenant donc à la population de ces territoires. Étant donné que la loi de 1978, Informatique et Liberté, interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques, hein, c'est la loi de 78, donc qui interdit ces fameuses statistiques ethniques, elle s'est basée sur des données telles que le nom, l'origine géographique, la nationalité, nationalité antérieure à la nationalité française ou le sentiment d'appartenance. Donc il y a aussi une dimension subjective, sentiment d'appartenance des personnes afin de réaliser donc cette étude. Elle a pu donc vérifier l'hypothèse de départ, c'est-à-dire l'hypothèse d'une sous-représentation des populations issues de l'immigration récente ou des minorités. Au sein de ces structures. Alors, en ce qui concerne les équipes de gestion, sur les 10 personnes du théâtre des Bergeries, de la direction jusqu'à l'accueil, personne ne représente la diversité ethnoculturelle. 0% donc. Au théâtre Gérard-Philippe, sur les 29 personnes, 3 relèveraient, le conditionnel est de mise, de la diversité ethnoculturelle, un pourcentage donc de 10% à peu près. Banlieue Bleue, 5 personnes sur 13 qui relèveraient de la diversité, soit donc environ 38% des membres de l'équipe. Nouveau Théâtre de Montreuil, sur les 28 personnes présentées sur leur site internet, 3 personnes représenteraient la diversité ethnoculturelle, donc environ 11%. Et enfin, la MC 93, sur les 48 personnes qui sont composent l'équipe de la MC 93, une personne seulement serait issue de la diversité, 2% du coup du personnel. Au total, sur les 128 personnes qu'elle a pu recenser au sein de ces 5 établissements, 12 représenteraient la diversité ethnoculturelle, soit environ 9% de l'ensemble des équipes réunies. Elle a mené également cette enquête du côté de la programmation sur l'année 2018-2019. Sur les 176 spectacles programmés, environ 64 étaient portés, dirigés ou interprétés par des artistes issus de cette fameuse diversité ethnoculturelle, ce qui représenterait environ 36% de la programmation sur les 5 établissements. Alors là aussi, elle détaille, hein, à la MC 93, ça serait 40% de la programmation, Théâtre des Bergeries, 25%, Nouveau Théâtre de Montreuil, 8%, au TGP, Théâtre Gérard-Philippe, 33% de la programmation, et à Banlieue Bleue, à Banlieue Bleue, donc 92% des spectacles incluraient des artistes issus de cette diversité ethnoculturelle. Voilà, donc évidemment, ces chiffres sont à manier avec beaucoup de précautions. D'abord, l'échantillon est quand même très limité. Ce n'est que quelques structures dans un territoire particulier. Mais enfin, c'est quand même, me semble-t-il, assez révélateur d'un état plus général, je dirais, du monde culturel, dans lequel, encore une fois, il y a place pour des artistes ou des techniciens ou des personnels, des professionnels issus des minorités ou issus de l'immigration récente, mais de manière insuffisante, en tout cas de manière non proportionnelle à ce que représentent ces populations dans l'ensemble de la population française. Donc il y a là clairement une sous-représentation, toute la question étant de savoir, encore une fois, comment corriger cette sous-représentation. Est-ce que ça doit être, ça doit passer par des quotas, avec d'éventuels effets pervers liés à ces quotas, ou est-ce qu'il faut laisser faire en quelque sorte l'évolution des mœurs, l'évolution de la société qui de plus en plus va faire place à ces personnes. C'est une question hein, qui n'est à ce jour pas tranchée, mais qui suscite régulièrement des polémiques, des controverses dans l'espace public. Voilà, j'arrête là ce premier enregistrement et je vais en entamer un deuxième qui va être focalisé sur le secteur du spectacle vivant et en particulier je parlerai de la question du régime des intermittents du spectacle qui est l'une des composantes essentielles de ce qu'on appelle parfois l'exception culturelle française.